L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 21h52, nous sommes le 13 juillet 1709. Dans quelques minutes auront disparu tous les documents originaux relatifs à l'une des plus sordides affaires judiciaires du règne du roi Soleil. Ce dernier s'en débarrasse, croyant alors pouvoir échapper à l'histoire et au scandale. Mais des copies circulent déjà entre les mains de certains représentants des autorités judiciaires et elles permettront de retracer la genèse et l'épilogue de ce drame hors norme. Depuis plus de 4 heures, des documents brûlent dans la cheminée du salon d'Apollon, au cœur du château de Versailles. Le roi Louis XIV est là, dans un fauteuil en velours bleu, en plein milieu d'une immense fresque rectangulaire. Un valet s'affaire, les mains et le visage recouverts de suie et d'encre, jetant les documents les uns après les autres. Encore 4 caisses. Sa perruque pleine de puces vissée sur la tête, la canne à la main et la solitude pesant sur ses épaules, Louis est soucieux. Brûler ainsi l'épreuve à la fin de sa vie, c'est tenter de faire un ultime pied de nez à cette affaire qui, près de 30 ans plus tôt, avait scandalisé l'opinion. Il revoit les images des empoisonnés de Versailles, revit les suspicions, se souvient des ragots et des messes basses. Ses poils se hérissent sur son bras quand reviennent les souvenirs des messes noires et de... Oh non, 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 non. Il doit chasser pour de bon toute cette agitation de son esprit. Brusquement, le bras droit appuyé sur la coudoir du royal siège, il se dresse. Le monarque est vieillissant, mais sa prestance, elle, est intacte. Il s'approche des bas-reliefs et les contemple. Le salon d'Apollon, c'est l'un de ses chefs-d'œuvre. Il le préfère même à cette galerie des glaces que le monde lui envie. À l'intérieur du grand appartement du roi, ce salon fait la jonction entre ceux de Mercure et de la guerre. L'influence antique est palpable à Versailles. Ce salon d'Apollon a même été sa chambre pendant longtemps et depuis 1682, c'est devenu la salle du trône. Il y reçoit ses audiences ordinaires. La routine aujourd'hui a été différente et la pièce du dieu du soleil s'est transformée en forge d'Héphaïstos, la divinité du feu. Louis XIV, les yeux en l'air, admire le plafond, réalisé par l'un de ses peintres favoris. Apollon est figure en son centre, dressé sur son char tiré par 4 magnifiques chevaux, accompagné par les figures de la France, la magnanimité et la magnificence. À leur suite, un cortège représente les 4 saisons, ou 4 coins. On y observe les 4 continents, et les voussures représentent des moments forts de l'Antiquité, notamment un autre grand guerrier de l'histoire, Alexandre le Grand. Le trône d'argent, lui, se reflète dans les flammes de la cheminée qui viennent lécher les doigts de ce pauvre valet qui s'affaire. Elle est gigantesque, cette royale assise. Elle mesure près de 2,60 m. Ce sont les représentations de 4 enfants portant des corbeilles de fleurs qui soutiennent le siège et le dossier, garnis de velours cramoisi, avec une campane d'or en relief. Sur le haut du cintre que forme le dossier, Apollon est représenté en pied, avec une couronne de laurier sur la tête et tenant sa lyre. La justice et la force sont assises sur les 2 tournants. De quoi parfaitement représenter le pouvoir ultime d'un monarque de droit divin. Au-dessus de la cheminée, le portrait en pied du roi Soleil réalisé par Rigaud, symbole même de son règne, semble le toiser d'un air moqueur et revêche, lui. Lui, le souverain du plus puissant pays du monde, en est réduit à brûler des papiers confidentiels à la lueur des torches, aidé d'un valet analphabète. C'est le début d'une mauvaise pièce de Molière. Sa canne frappe le plancher à chacun de ses pas. Et le vieux roi regarde les étoiles naissantes se mouvoir dans la nuit. Les larmes lui montent aux yeux lorsqu'il pense à cette affaire, tant sa verve et sa jeunesse d'alors lui manquent aujourd'hui, alors même qu'il se cache, lui, le roi Soleil, dans sa propre maison. Les teintures rouges jouent avec le lustre de cristal et paraissent s'illuminer au contact du brasier. Il reste encore 2 caisses. D'un regard distrait, Louis regarde son valet prendre des piles entières et les jeter sans ménagement. Si le bougre savait ce qu'il a entre les mains. De temps à autre, il se saisit d'un document, le parcourt de dégoût et le jette lui-même. Ce feu sacré et purificateur lui rappelle la mort de la sorcière accusée de bien des méfaits, la voisin. Il avait assisté au bûcher ce jour-là, et depuis ce jour, elle le hante. Ses agissements, qui s'étalent sur des années, sont d'abord partis des faubourgs de la capitale pour venir rebondir comme des boulets d'artillerie sur les murs de Versailles, où les morts suspectes et les tentatives d'enchantement ont été légion. Comment imaginer que la couronne puisse être touchée si violemment par ces histoires sordides ? Pire encore, comment imaginer des nobles de sa propre cour s'y adonner sans scrupules ni discernement ? Cette perspective lui fait tourner la tête, et alors qu'il se sent défaillir, il retombe avachi dans son fauteuil. La main soutenant sa tête posée sur l'accoudoir, Louis XIV se laisse aller les yeux dans le vide. Il replonge dans ses souvenirs aussi anciens que vivants. Heureusement, le valet est en train de brûler les derniers documents. Nous sommes en 1672. Nous voici dans un hôtel particulier parisien, au sein de la rue Hautefeuille, au cœur du quartier cossu de la Monnaie. La veille, un capitaine de cavalerie du roi y est décédé de causes tout à fait naturelles. Ses amis du régiment, éplorés, rassemblent ses affaires et préparent la cérémonie de l'enterrement lorsque l'un d'entre eux met la main sur une cassette scellée. Tous les présents regardent d'un air surpris ce petit coffre. En le retournant, ils découvrent un mot écrit de la main de leur ami officier. À n'ouvrir qu'en cas de mort antérieure à celle de la marquise. La marquise ? Mais de quelle femme leur ami parle-t-il ? L'un d'entre eux, un sourire narquois aux lèvres, leur apprend que le feu officier a eu une liaison pendant longtemps avec la marquise de Brinvilliers, une femme influente et puissante qui a ses entrées régulières à Versailles. Estomaqué, et puisqu'il est mort, alors qu'elle galope toujours dans les passages secrets du palais royal, il se décide à ouvrir la fameuse cassette. Alors que tout le monde pense sincèrement y trouver des bijoux ou des lettres enflammées, le contenu qui s'en échappe va bouleverser la vie du royaume, tel un implacable rouleau compresseur. Au lieu de lettres de leur ami, y figure une reconnaissance de dette de la marquise, 9 lettres écrites de sa main, et surtout, au fond, bien entassées, des fioles vides et bouchées. Le contenu des écrits est accablant. Cette fameuse noble y reconnaît avoir empoisonné à l'aide d'arsenic de bave de crapaud, je vous laisse imaginer le mélange, son père et ses 2 frères afin de récupérer leur part d'héritage. Cet état de fait encourage la police, à qui les militaires ont confié les éléments, à faire analyser les fioles par un apothicaire. Ce dernier confirme bientôt que du poison, laissant peu de traces dans l'organisme, est présent dans les contenants. Plus accablant encore, un document met en cause un proche de Colbert, principal ministre du roi, dans une affaire de prêt d'argent. En moins de temps qu'il faut pour le dire, l'affaire de la cassette se retrouve sur le bureau du roi Soleil. Ces prémices mystérieuses mettent en route la machine judiciaire de manière quasi instantanée. Recevant une incitation à comparaître durant l'été 1672, la marquise décide de se sauver. Elle se réfugie chez les voisins anglais. Pour la couronne, c'est un camouflet et une humiliation à réparer. Colbert est à la manœuvre et bien qu'il soit déjà en légère disgrâce auprès du roi, il part afin de la rapatrier. L'Angleterre refuse d'aider la France et d'extrader la fugitive, mais la noble comprend bien vite que sa position est intenable. À Valenciennes, en Hollande, puis enfin à Liège, elle tente de se faire oublier au sein de couvents et d'institutions religieuses. D'autres protagonistes de l'histoire connaissent des sorts bien moins enviables. Le valet de l'officier amant de la marquise, considéré comme complice de cette dernière alors que rien ne permet de l'affirmer, est arrêté, jugé et condamné à être roué vif sur la macabre place de Grève. En d'autres termes, il est condamné au supplice de la roue. Louis XIV surveille l'affaire du coin de l'œil, guettant un faux pas de Colbert pour le faire chuter pour de bon. Fin mars 1673, le valet est exécuté, d'autant qu'il a avoué pendant les tortures préalables avoir été tueur à gages pour l'officier du roi. Celui-là a décidément été bien avisé de mourir naturellement avant que cette affaire n'éclate. La marquise, elle, qui se terre dans un couvent de nonnes à Liège, est pourchassé sans relâche par les autorités royales. Lors du jugement du Valais, le Parlement de Paris condamne aussi la marquise à mort par contumace. La meute de ses poursuivants ne fait que grandir, tout comme sa peur d'être reprise. Mais les jours, mois et années passent sans qu'elle soit inquiétée. 3 ans sont maintenant passés depuis l'exécution du valet de son ancien amant et elle commence à croire qu'elle va se tirer d'affaire. C'est à ce moment qu'un nouveau prêtre, dépêché par le diocèse de Bruxelles, intègre le couvent où elle se trouve. Grand, fin, plutôt beau garçon, malgré une démarche bourrue, il est aux antipodes des autres hommes de religion. La marquise ne s'en méfie pas. L'homme est gentil avec elle. Et comme personne n'est au courant, à part quelques sœurs, de son identité, elle devient moins vigilante. Un soir, après une prière habituelle et concise, l'homme de foi entre dans sa chambre, vêtu de sa tenue de prêtre. Brusquement, et alors qu'elle s'y attend le moins, il lui saute dessus et la confronte. Il se dévoile aussi, et il n'a jamais été un prêtre. C'est un lieutenant de police, fin limier du lieutenant général de la capitale, qui vient pour la ramener à Paris. La marquise tombe des nues. Et bien entendu pour elle, c'est la catastrophe. 3 ans, jour pour jour, après l'exécution du valet, elle est arrêtée, tout en symbole. Dans sa petite chambre, le lieutenant de police fait de nouvelles découvertes écrites bien plus accablantes que celles de la cassette. La marquise y avoue en confession être l'instigatrice d'homicides. Ceux de sa famille, mais aussi d'autres sur demande. D'être une pyromane, et pire encore pour l'époque, de pratiquer des avortements. Autrement dit, le lieutenant de police est persuadé d'avoir affaire à une sorcière, empoisonneuse et diabolique. Elle confie également avoir été violée toute son enfance par l'un de ses frères. Ramenée à Paris, pour un premier interrogatoire durant lequel elle n'avoue rien, le 17 avril 1676, elle est écrouée à la prison de la Conciergerie, dans une cellule des plus miteuses, où grouillent les rats et couvertes de moisissures. Là, elle écrit, hurle à tort et à travers, que ses lettres ont été écrites dans un moment de folie et qu'elle n'est en rien réellement coupable. Elle tente de se suicider à la fin avril de la même année, mais sa tentative échoue car le poison qu'elle utilise ne donne pas l'effet escompté. Le procès qui s'ouvre le 29 avril 1676 est une affaire publique. La longueur de l'instruction, plus de 2 mois, permet rumeurs et bruits de couloirs qui vont jusqu'à Versailles. Rendez-vous compte. La marquise arpentait quelques années auparavant les salons en compagnie des autres dames de la cour. Ce procès est une surprise et une véritable bombe jetée au visage de tous. Mais croyez-moi, nombre de courtisans sont dans leurs petits souliers et longent les murs durant ces mois où la justice suit son cours. Tous espèrent que la marquise garde le silence sur ses potentiels clients. Le roi Louis XIV, lui, est encore loin de se douter de l'ampleur du scandale au sein de sa cour. Il écrit à Colbert afin de faire passer un message au président de la cour de justice. Et il obtient gain de cause. La marquise est condamnée, elle aussi, à la peine capitale. Son extrême piété en prison, ainsi que son absence d'aveu lors de la question, durant laquelle elle est gavée d'eau à l'aide d'un entonnoir, lui donne une popularité extrême dans la population et chez ses contemporains. Son exécution reste célèbre et à la hauteur de l'événement. Elle est décapitée, les yeux bandés, et son corps d'abord, puis sa tête, sont jetés au bûcher par le bourreau. Ses cendres, elles, sont éparpillées dans la Seine. Dès le lendemain, d'éventuels ossements sont recherchés, tant on la considère comme une sainte. A posteriori, on dit qu'elle a empoisonné la princesse Henriette d'Angleterre pour punir l'alliance contre nature entre la France et l'Angleterre. En réalité, on sait aujourd'hui qu'Henriette est morte d'une anomalie sanguine. Sa culpabilité n'est pas remise en cause de nos jours, mais remise en perspective, notamment face au fait que son amant soit plutôt l'instigateur des meurtres et surtout qu'elle n'a pas pu réellement se défendre face à la justice. Les juges ont plutôt tenté de connaître les noms de ses complices, mais pieuse et droite, elle ne les a jamais donnés. Autant vous dire que son exécution entraîne un retentissant tremblement de terre, tant dans les journaux que dans les différents milieux d'influence. La droiture de la marquise a en tout cas eu l'effet de soulager considérablement les courtisans et courtisanes de la cour qui auraient pu sentir passer de près le souffle du boulet judiciaire. Pour Louis XIV, Colbert et les autres, cette affaire n'est que les prémices d'un scandale qui manqua d'éclater si la condamnée avait eu la volonté de faire des aveux. Au plus près du roi se trament déjà des histoires des plus sordides. Loin, très loin de la foi catholique prônée par le palais. Et la bulle qui ne cesse de grossir ne va pas tarder à éclater au visage du roi Soleil.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous relate l'heure H d'une affaire qui secoua le règne du plus grand monarque de France, Louis XIV. Aux prémices de l'horreur, il y a l'accusation et l'exécution de la marquise de Brinvilliers qui joue avec les poisons pour son usage personnel. Mais des rumeurs commencent à enfler, même après sa mort. Les galeries et salons du palais royal murmurent. Les courtisanes n'hésitent pas à accuser certaines personnes parmi les plus influentes de la cour de complicité. C'est sur ces entrefaits que, 7 ans après l'explosion de la première bulle, une seconde, bien plus grosse, s'apprête elle aussi à éclater. Nous sommes en 1679. Depuis 3 ans déjà, la marquise est décédée. Tout semble bien se passer au royaume de France. Le roi est au firmament de sa puissance. À Paris, ce soir du 1er mars, le vent frais et la brume qui envahit les ruelles parisiennes n'incitent pas les habitants à sortir de chez eux. Les plus courageux d'entre eux occupent les tavernes, et c'est le cas ce soir-là, d'un petit avocat parisien. Il n'a pas de clients, du moins sa réputation n'est pas excellente. Il noie son manque d'ambition dans un verre de vin bon marché. Il vient d'arriver et l'alcool n'a pas encore alourdi ses méninges lorsque, à côté de lui, une femme avinée, parlant plus fort que les autres, attire son attention. Elle est bien connue dans le quartier. C'est une cartomancienne, une voyante. Une arnaqueuse, donc, pense avec dédain l'avocat appuyé sur le bar. Cependant, la discussion du moment semble bien plus prometteuse que celle des petites bourgeoises qui viennent chercher chez elles la bonne fortune. Avinée comme il ne l'avait jamais vue encore, la femme en vient à raconter entre deux chopes qu'elle est payée depuis 3 ans pour être empoisonneuse et faire de la magie noire. Elle parle de ses profits et de ses revenus qui ont triplé. L'échine de l'avocat, elle, se hérisse à chacun de ses mots. Lui a encore en tête l'affaire de la marquise. Sans attendre, il est dès le lendemain dans le bureau du lieutenant général de police de Paris qui a eu la charge de cette affaire. Lorsqu'il confie ce qu'il a entendu, le fonctionnaire des forces de l'ordre manque de tomber de sa chaise. Ainsi les ragots disaient vrai. Il y en a d'autres. Le lieutenant général, rapidement, avise Versailles de ce témoignage. Le roi n'en est pas encore averti. Mais ses ministres, Louvois et Colbert, tous deux en guerre d'influence auprès du monarque, s'en saisissent avec une visée politique dès le départ. On fait arrêter la femme qui a eu le malheur de se vanter de ses crimes au mauvais endroit. On la torture, et comme souvent dans ce cas de figure, elle donne des complices. Une seule, en l'occurrence. Une femme qu'on nomme la voisin. L'enquête menée par la police parisienne éclate au grand jour. Elle laisse paraître aux yeux du grand public un commerce des plus morbides qui existe donc dans la capitale depuis plusieurs années. Seulement les accusés ici ne viennent pas des bas-fonds, des mauvais quartiers de Paris. Non, ce sont des bourgeois, parfois des nobles. Certaines femmes, des membres du Parlement, ont tenté de faire empoisonner leur mari. Le scandale est tout bonnement hors norme. On dépêche un tribunal spécial qui, rapidement, se transforme en poudrière. Des noms liés à des tentatives d'empoisonnement ou d'enchantement sortent à tour de bras. Pire encore, la plupart sont également impliqués dans la participation et l'organisation de messes noires, voire de sacrifices d'enfants. Parmi elles, beaucoup de femmes sont des courtisanes du palais de Versailles. des comtesses, des femmes de maréchaux et des membres du cercle rapproché de Madame de Montespan, qui n'est autre que la favorite du roi Soleil. C'est toute la monarchie et la couronne qui sont éclaboussées. Un énorme scandale, lui, se profile déjà à l'horizon. Les témoignages s'accumulent, nombreux, souvent farfelus aussi. Et les accusés sont pointés du doigt pour les pires méfaits, allant de la fabrication de fausses monnaies au meurtre d'enfants en passant par la profanation de l'hostie. Le seul problème, c'est qu'hormis quelques témoignages, un manque de preuves matérielles criant se fait sentir. En réalité, ce zèle des forces de police est quasi certainement lié à la lutte intestine qui existe entre les deux ministres. Louvois mène une enquête secrète à la demande du roi contre Colbert. Ce dernier, lui, se retrouve empêtré car certains des mis en cause se trouvent être, comme par hasard, des proches. Autant vous dire qu'il marche sur un terrain miné. Il faut savoir que les empoisonnements sont la principale psychose du règne de Louis XIV, avant même l'arrestation de la marquise en 1676. Colbert a été le témoin de la mort suspecte d'Henriette d'Angleterre, de celle d'un ministre et de celle de quelques comtes, tout ça en quelques années seulement. Si la mort de la marquise a calmé les ardeurs de ses empoisonneurs pendant quelques temps, ce fut peu de temps après reparti de plus belle. Avec ça, les luttes politiques qui s'en mêlèrent n'arrangeaient rien. Entre 1679 et 1680, la vitrine majestueuse d'un règne qui n'est que dorure et superlatif se craquelle. Elle explose sous l'onde de choc des affaires de sorcellerie et des manœuvres d'assassinat. Pour l'opinion, c'est la sidération, et ce d'autant que l'envers du décor se montre des moins reluisants. Les deux premières diseuses de Bonaventure arrêtées sont bientôt rejointes par d'autres. La liste des sorcières, autant que celle des clients, ne cesse de s'allonger. Et bientôt, ce sont près de 150 personnes qui sont directement impliquées par l'affaire, de près ou de loin. Oh, bien entendu, les coupables sont majoritairement des petites gens, des blanchisseuses ou des domestiques, principalement des femmes. Du côté des hommes, la plupart sont d'anciens soldats réformés ou blessés de guerre. Mais la clientèle se recrute aussi dans des milieux plus favorisés, des gentilshommes, ou pire, des aristocrates qui fréquentent les salons de divination pour se faire tirer les cartes ou lire les lignes de la main. La voisine la plus célèbre des arrêtées est plutôt spécialisée dans les empoisonnements, mais surtout dans les avortements. Elle avoue avoir enterré dans son jardin ou brûlé dans son four les restes de 2500 fœtus. Ces chiffres donnent le tournis aux enquêteurs. Comble de l'horreur, c'est à la sortie de la messe qu'elle est arrêtée en mars 1679. Même si le christianisme est au cœur de la société d'alors, le diable se cache dans chaque ruelle. Les croyances d'origine païenne courent les rues, autant que les convictions du bien. Les prêtres, dont on est persuadé qu'ils sont investis d'un pouvoir divin et supérieur, acceptent contre monnaie sonnante et trébuchante de dépasser les limites de leur ministère, parfois en invoquant à la demande les forces du mal. Ainsi, ce n'est pas toujours vers les cartomanciennes que l'on se tourne. Et certains prêtres concernés par des accusations liées à l'affaire sont eux aussi arrêtés. C'est généralement le cas lorsque la tenue de messe satanique est dénoncée. Il faut bien distinguer ici les messes noires de celles menées dans l'optique de pactiser avec le diable. Dans ce cas précis, la messe est donnée au milieu d'un cercle de chandelles alors que la messe noire, elle, est récitée à l'envers avec des chandelles et des hosties obscurcies. En effet, Dieu, qui incarne la lumière et l'immaculée blancheur, est contrebalancé par la noirceur de Satan, prince des enfers. Tout est donc pratiqué à l'opposé. On les célèbre de fêtes de nuit, au cœur de ruines ou d'endroits isolés et particulièrement adaptés aux ambiances morbides. Dans le plus simple des cas, une poupée à l'effigie de l'ennemi du client est transpercée. On utilise des poudres, des filtres, des miroirs magiques et dans le pire des cas, on y sacrifie des nouveau-nés. N'allez pas imaginer que cette pratique est uniquement marginale puisqu'on compte, rien qu'à Paris, plus ou moins 400 officines sataniques. Vous pouvez donc imaginer comme moi la tête du lieutenant-général de la police de Paris lorsqu'il constate l'ampleur de cette affaire. Tous ces endroits se trouvent dans des zones excentrées de la capitale. Pour s'y rendre, les chaises à porteurs et autres carrosses étaient laissées bien loin. Le visage masqué. Les aristocrates longeaient les murs sans dire un mot. L'effarement est total chez le responsable de la police parisienne. Dès qu'il mesure l'ampleur du problème qui ronge une partie de la société française, il en informe le roi. Naturellement, Louis XIV est surpris. Loin de lui l'idée de voir germer un nouveau scandale de ce genre, des années après la mort de la marquise. Cette dernière avait été jugée par le Parlement de Paris, ce qui, bien entendu, avait participé au fracas et à l'intérêt de l'opinion publique. Là, la donne est différente. La multitude d'affaires et la position sociale de la plupart des accusés est telle qu'il choisit une autre option judiciaire. Le 7 avril 1679, très rapidement donc, une juridiction extraordinaire est créée par le monarque. La chambre de l'arsenal est uniquement composée de magistrats triés sur le volet et fidèles au régime, et donc à la volonté de ne pas faire un bruit excessif d'une affaire qui sent déjà la poudre sur le papier. Rapidement, le surnom de chambre ardente supplante le nom d'origine en référence au jugement du Moyen-Âge pour sorcellerie. Des jugements qui se déroulaient dans des salles ornées de teintures noires et à la lueur des flambeaux et des torches. Ici, ce ne sera bien entendu pas le cas. Le lieutenant-général de la police de Paris est lui-même chargé des interrogatoires. Il fait face à un défi immense. En effet, des dizaines de prêtres ou de cartomanciennes sont incarcérés soit à la Bastille, soit à Vincennes. Les rapports écrits par l'homme de l'ordre donnent le tournis, tant les plus grands noms de la noblesse de France y sont cités. Des comtesses, des ducs, des duchesses, notamment celle d'Angoulême, des marquis et marquises, et même la vicomtesse de Polignac. Le retentissement des faits serait tel dans l'opinion que la couronne craint une révolte. Discrètement, certains des non-cités sont emprisonnés. Ils sont soumis à de rudes interrogatoires, et ce malgré leur position nobilaire et aristocratique. Le maréchal de Luxembourg, la princesse de Tingrie et quelques autres très haut placés se retrouvent à devoir justifier des actes commandités ignobles, tout au moins malsains au possible. On a longtemps cru devoir emprisonner le célèbre poète Jean Racine, qui fut accusé par certains des détenus d'avoir supprimé sa maîtresse. La machine s'emballe. Les affaires se croisent et s'entremêlent. Les accusés font même souvent des témoignages qui se recoupent. Alors, comment démêler le vrai du faux, me direz-vous ? La plupart de ces gens haut placés sont bien entendu très vite mis hors de cause. D'abord, de par leur position, mais aussi car on estime que les accusés plus communs pourraient s'être mis d'accord pour se tirer d'affaire. En effet, tout ce petit monde avait tout intérêt à charger au maximum les personnes haut placées. À ce stade, la personne sacrée royale n'est toujours pas impactée de manière directe. Et cela ne va pas durer longtemps. En effet, un scandale autour de la plus célèbre des maîtresses du roi, Madame de Montespan, éclate au milieu des témoignages. Alors qu'une partie du pays ployait déjà sous le poids des accusations, la couronne, elle aussi, menace de vaciller. À Versailles, l'ambiance, subitement, devient particulièrement morose.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de l'affaire des poisons qui secoua le régime de Louis XIV. Alors que de nombreux adeptes de la magie noire et blanche sont emprisonnés et soumis à des interrogatoires, nobles et aristocrates sont inquiétés par les mêmes accusations. Et bientôt, c'est la personne du roi qui est impactée indirectement. Et le lieutenant-général de police, comme la chambre ardente, se retrouve au cœur d'une tempête qui menace de devenir totalement incontrôlable. Revenons quelque temps en arrière. Nous sommes le 25 janvier 1679. Il est 2h52 du matin, dans quelques mois. Le scandale des poisons va éclater, mais pour le moment, le monde obscur de la magie noire réalise toujours son office macabre sans encombre. L'endroit dans lequel s'arrête le carrosse de Madame de Montespan lui est inconnu. Elle a reçu la lettre du prêtre quelques jours plus tôt, avec pour lieu de destination une forêt au nord de Versailles, isolée et décharnée. Les arbres qui se déroulent devant elle, à sa sortie de voiture, sont tordus et accusateurs. Elle recouvre son visage et avance à pas feutrés vers une clairière éclairée plus au loin. Son souffle glacé se mêle à la brume et bientôt un homme de Dieu en soutane totalement noire, le visage masqué, l'accueille d'un geste. Au sol, des bougies représentant un pentacle couvrent le sol et tout autour de la clairière, des torches brûlent et défient le temps froid d'alors. La forêt observe avec crainte les événements qui se produisent ce soir-là. Tout au loin, des loups hurlent à la gloire de la pleine lune qui trône dans le ciel. À moins que ce ne soit finalement des loups-garous qui viennent chercher Madame de Montespan pour l'emmener au cœur des ténèbres. L'ancienne favorite, tout récemment déchue, est terrifiée. Depuis peu, le roi l'a délaissée pour lui préférer la Maintenon, une foutue dévote qui a embrigadé son Louis dans ses histoires de religion. Elle n'a pas d'autre choix. Elle doit se résoudre au pire, se fier à la voisin qu'elle connaît depuis longtemps et qui a organisé pour elle la cérémonie qui se tient aujourd'hui au creux de ses bois. Elle aussi est là, sa nécromancienne. Debout, elle tient entre ses mains un drap qui dissimule à peine une forme qui gigote et hurle. Le sacrifice. La cérémonie est lancée et nue, Madame de Montespan se couche sur le dos, la face tournée vers la lune. Là, le tout jeune enfant est sacrifié et son sang vient se répandre sur le corps de l'aristocrate qui prie alors le diable de lui accorder de nouveau les faveurs royales. Avant de repartir pour Versailles, quelques heures plus tard, la voisin lui donne des philtres d'amour qu'elle a concoctés à base de bave de crapaud, de pétales de rose et de mercure. Rassurée, la Montespan en est persuadée. Bientôt, elle sera de nouveau dans la couche royale. La chambre ardente, elle, va siéger pendant 3 ans après les révélations de cette affaire hors norme. Elle a tenu 210 séances pour 36 condamnations à mort, 4 aux galères, 34 bannissements ou amendes et 30 acquittements. Un total de 104 jugements, donc. Ce faible taux de condamnation s'explique parce que les révélations faites sur la Montespan indisposent Louis XIV et le mettent dans une colère noire. En réaction, il n'a pas d'autre choix que de suspendre le travail des magistrats. En effet, 4 des accusés, notamment la fille de la voisin, accusent la favorite d'avoir commandé des poudres aphrodisiaques à destination du roi, mais aussi d'avoir commandité des messes noires et même d'être allée jusqu'à vouloir empoisonner le roi et sa nouvelle maîtresse. Vous comprenez, j'imagine, la royale colère face à tant de révélations. Mais pouvons-nous avec certitude la considérer comme coupable ? Une aristocrate de haut rang, qui plus est dans les faveurs royales, se serait-elle abaissée à tant d'horreurs ? Eh bien, en réalité, il est difficile de l'innocenter. On sait de sources sûres, écrites et judiciaires, qu'elle fréquente, au moment de l'affaire de la marquise, le monde des devins et des tireuses de cartes. Elle participe déjà à des cérémonies en tout genre, alors qu'elle n'est encore que simple dame à la cour. Afin d'orienter le cœur du roi vers elle, des charlatans et devins lisaient sur sa tête des passages de l'Évangile, tout en enterrant des cœurs de pigeons, tout ça dans le but de provoquer le réveil du palpitant du roi soleil. Ces cérémonies ont été les prémices de prises de poudre composées d'excitants. Cela étant corroboré par l'état de santé du souverain en 1675-1676, qui se plaint de douleurs au ventre et de nausées. À plus forte dose, ces prises auraient pu provoquer son empoisonnement pur et simple. Reste ensuite à vérifier la question de la tentative d'assassinat sur le roi et sa maîtresse, ainsi que sa participation supposée aux messes noires. Pour ces cérémonies, bien que Colbert rédige à destination du souverain une note en faveur de l'ancienne favorite, sa présence a été signalée par plusieurs personnes qui en attestent à des moments différents et en des lieux de détention différents. Enfin, pour la question de la tentative d'empoisonnement, dans ce cas précis, la réponse est claire. La Montespan n'a pas pu tenter d'empoisonner le roi. En effet, à la date où on la dénonce, cette dernière ignore encore que Louis a changé de maîtresse. Pour autant, à l'époque, cette clarté dans la chronologie des événements n'existe pas. Elle n'est pas disculpée totalement. Ce d'autant que tous les témoignages des accusés viennent également charger sa dame de compagnie, qui semble, elle aussi, au cœur de toute cette terrifiante affaire. En 1681, la jeune nouvelle maîtresse du roi décède à la suite d'un accouchement difficile. La psychose est telle que Louis XIV exige une autopsie qui ne révèle rien sur le moment. Mais l'enquête du lieutenant général de police révèle que la voisin a bien été missionnée, probablement par la dame de compagnie de la Montespan, 2 ans plus tôt, pour empoisonner le couple. La jeune maîtresse l'aurait été via un cadeau d'étoffe empoisonnée, et le roi par une missive, elle aussi porteuse de poison. Fort heureusement pour eux, la sorcière n'a jamais pu rencontrer le roi. Quant aux tissus, eux, ils ne sont jamais arrivés non plus. Coupable ou non, pour la Montespan, le sort en est jeté. Alors qu'elle dispose d'un appartement au cœur du château, elle est contrainte de le céder à son fils et d'aller habiter dans les soupentes du palais. Terrible humiliation pour celle qui eut droit à tous les éloges et tous les cadeaux durant plusieurs années. À compter de 1683, elle est déchue de ses titres et, sans doute par punition, elle siège toujours à la cour, en disgrâce totale aux yeux de Louis. Elle continue de mener grand train à la cour, refusant de quitter le lieu où se trouve son ancien amant. Elle a fini par l'aimer sincèrement, elle qui au départ agissait uniquement par opportunisme. Sa fille épousera le duc de Bourbon, ce qui confortera l'assise de la famille au sein de l'aristocratie. Elle décide finalement en 1691 de se retirer de la cour. Elle meurt en 1707 pendant une cure d'eau thermale. Elle n'a donc finalement jamais été inquiétée directement et encore moins emprisonnée à la suite de l'histoire des poisons. Histoire qui se termine brusquement à la suite des révélations faites sur elle. Le roi, lui, attend la mort du lieutenant général de la police de Paris en 1709 pour brûler toutes les preuves matérielles, du moins c'est ce qu'il croit, de ce dossier judiciaire explosif pour la couronne. Les 442 inculpés et leurs secrets doivent tomber dans un éternel oubli, selon les mots mêmes du souverain. 6 ans plus tard, le roi Soleil, dont la splendeur a terni, meurt des suites d'une gangrène qui l'attaque au pied. En réalité, cette affaire a aussi été montée en épingle de manière politique. Il ne faut pas oublier que Colbert est un ami intime de la marquise et de la Montespan, et qu'ainsi, son concurrent, le ministre Louvois, pense pouvoir se débarrasser de son rival et de l'influence qu'il a sur le roi. De plus, prononcer le nom de l'ancienne favorite dans son témoignage, c'était éviter la mort à tous les coups ou presque, puisque la peine capitale ne peut être prononcée qu'après un procès. Or, Louis XIV refuse d'en provoquer lorsque le nom de la Montespan est évoqué. Attention donc à ne pas éluder la question politique de ce drame. La plupart des spécialistes sont aujourd'hui d'accord pour la disculper de la plupart des points à charge. Certes, les filtres d'amour ont existé, mais le reste ne semble n'avoir été que mensonge. Quoi qu'il en soit, l'affaire des poisons reste l'une des intrigues judiciaires les plus délicates et les plus mystérieuses de l'histoire de France. Détenteur du plus long règne de l'histoire du pays, Louis XIV n'est pas en reste en termes de manœuvre. Il est également l'un des acteurs principaux de l'histoire du masque de fer. La cour de France, théâtre de mystère dès les premiers couronnements du début du Moyen-Âge, utilise ici le huis clos du château de Versailles imposé par Louis XIV comme un déversoir de haine et de désir de vengeance. Alors le roi Soleil, arroseur ou arrosé ?
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.